Maria Gabrielle, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Kinshasa?
D'abord, la mission d'observation électorale de l'Union européenne en 2011, qui a émis des recommandations qui, aujourd'hui, sont à la base de notre venue. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une mission de suivi qui a pour objectif de se rendre au pays, d'avoir des conversations avec toutes les autorités qui sont incluses et qui participent au processus électoral, et de faire un état des lieux en premier. Un état des lieux pour savoir dans quelle mesure ont été mises en place les recommandations que la mission d'observation électorale avait formulée en 2011. Comme vous le savez, ces recommandations ont pour objectif de renforcer la transparence, la crédibilité du processus électoral. Donc aujourd'hui, il s'agit de voir quelles sont les différentes avancées. Et une fois cet état des lieux fait, nous allons essayer de nous projeter plus dans l'avenir et de bien identifier quels sont les défis auxquels le pays fait face, des défis à court terme, à moyen ou à long terme.
Vous avez rencontré certainement quelques autorités depuis votre arrivée. Qu'est-ce que vous trouvez comme avancée depuis que vous aviez fait des recommandations au terme des élections de 2011? Est-ce que, d'après vous, les choses ont changé? Y a-t-il une certaine amélioration?
Je ne me prononcerai pas encore aujourd'hui parce qu'on n'en est qu'au deuxième jour de notre mission sur les différentes conclusions que nous allons tirer. En revanche, je tiens déjà à dire que les premiers rendez-vous que nous avons eus le premier jour, c'était d'une part une réunion avec le président de la nouvelle CENI, Malou Malou, avec l'Assemblée plénière qui est maintenant le nouvel organe collectif de prise de décision. Nous avons également rencontré le Premier ministre et nous avons également eu des rendez-vous avec nos partenaires internationaux, y compris avec Martine Kobler, chef de la mission de l'ONU, la MONUSCO. Donc aujourd'hui, je me réserverai bien de ne pas tirer des conclusions hâtives. La mission commence. Par exemple, aujourd'hui, nous allons rencontrer les deux présidents du corps législatif, le président du Sénat, le président du Parlement. Nous allons également rencontrer les partis politiques. N'oublions pas que c'est la force majeure dans une démocratie. C'est eux qui proposent des projets de société qui suscitent l'adhésion des citoyens. Nous allons également rencontrer les différents représentants de la société civile. Nous allons également rencontrer le ministre de l'Intérieur, avoir aussi des réunions qui nous permettront de faire un état des lieux quant à l'avancement dans le domaine de la justice. Évidemment que nous sommes guidés par les recommandations que nous avons formulées en 2011. Et n'étaient pas si nombreuses que ça. Il s'agit de 22 recommandations et nous avons bien veillé à ce moment de bien identifier les différents niveaux de responsabilité. Lorsqu'on va rencontrer le président de l'Assemblée nationale, évidemment que nous allons nous intéresser sur les avancées quant au plan législatif. Qu'est-ce qui a été fait? Vous savez qu'en ce moment, il y a les trois projets de loi électorale qui viennent d'ailleurs hier de passer au Conseil des ministres et dont le débat va avoir lieu en plénière à l'Assemblée. Nous allons également être attentifs quant à la restructuration de la CENI et les différentes mesures qui sont prises en compte pour que le processus électoral puisse avancer.
Mais vous êtes une mission d'observation électorale, vous faites le suivi du processus. Aujourd'hui donc, vous devez faire une évaluation de ce que vous avez recommandé. Pensez-vous que parmi vos recommandations, quelques-unes ont été appliquées?
On peut remarquer que l'une de nos recommandations était la mise en place d'une nouvelle CENI. Donc nous avons maintenant une nouvelle CENI.
Est-ce qu'elle est crédible d'après vous?
Non, je ne tomberai pas dans ce piège. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour observer et constater. Donc aujourd'hui, la question est de pouvoir donner aussi la chance à cette CENI de pouvoir faire son travail. Et son travail, ça dépendra aussi des différentes mesures qui sont mises en place afin de rendre opérationnelles toutes les unités qui sont mobilisées, qu'il s'agisse de la fiabilisation du fichier électoral, qu'il s'agisse de la fourniture du matériel. Donc aujourd'hui, c'est très important aussi de bien identifier les différentes responsabilités. On a effectivement tendance à se focaliser sur la CENI, mais elle n'est pas la seule à participer dans le processus électoral. Nous avons des responsabilités partagées avec le ministère de l'Intérieur, des partenaires politiques évidemment.
À ce sujet de partenariat par exemple, actuellement il y a un bras de fer entre la CENI et les partis de l'opposition sur le calendrier électoral consensuel. Qu'en pensez-vous?
J'attends de rencontrer tous les partis politiques, hein, pas seulement les partis de l'opposition, pour pouvoir échanger avec eux. C'est cet après-midi que nous avons prévu d'avoir un échange qui nous permettra justement de voir quels sont les points sur lesquels il y a un consensus et quels sont les points sur lesquels il y a encore besoin d'un dialogue afin de renforcer la transparence, parce qu'on sait très bien que le consensus vient lorsque la prise de décision se fait de manière transparente et lorsqu'elle se base sur un dialogue régulier. Mais nous sommes tous d'accord qu'il est nécessaire d'avoir un calendrier électoral complet. Ça permettra au pays de se projeter dans l'avenir et de ne pas rester uniquement focalisé sur un objectif à court terme que sont les élections telles qu'ils ont été déjà annoncées dans le calendrier officiel, les élections locales notamment.
Et d'après vous, quel est le mode du scrutin qui est adapté au contexte actuel de la RDC?
Grand débat. Et nous sommes là aussi pour comprendre quels sont les avantages et désavantages avantages de l'un et de l'autre, il faut en revanche le dire clairement. Le mode de scrutin direct au mode de scrutin indirect, ce sont des modes de scrutin qui existent dans toute démocratie partout dans le monde. Vous avez d'autres pays dans lesquels ces modes de scrutin sont appliqués. L'idée, c'est de ne pas tomber dans un débat quel est le mode de scrutin qui apporte le plus de légitimité. L'idée, c'est de savoir comment le processus se déroule, comment sont sélectionnés les gens qui permettront d'avancer dans la hiérarchie et surtout de faire en sorte que ce mode de scrutin exprime la volonté des citoyens. Donc à ce propos, je profite pour inviter toutes les personnes qui sont intéressées, ou les journalistes en particulier, comme notre grand soutien pour la diffusion de l'information, à la table ronde que nous allons co-organiser ensemble avec la délégation de l'Union européenne et avec la CENI, vendredi à la Maison des élections.
Maria Gabriel, ex-Nedelcheva, je vous remercie.
Merci beaucoup.